Je vous ai déjà parlé d'elle, de mon amie arménienne d'origine yézidi arrivée en France dans sa petite vingtaine, délaissée par son mari et atteinte d'un cancer. Je vous ai parlé de ce monde qu'on croyait sûr, qui s'écroule parfois tout simplement parce que on vit dans un monde entaché par le péché où des catastrophes arrivent, certaines d'entre elles évitables, avec un minimum d'hygiène de vie, que ce soit au niveau physique, psychologique ou spirituel, et puis d'autres qui sont pas évitables, parce qu'elles dépendent pas de nous en fait. Et donc parfois notre monde effectivement peut s'écrouler, ce qu'on croyait sûr peut être balayé d'un instant à l'autre. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous auriez fait vous à la place de mon amie? Probablement que dans un premier temps vous auriez fait comme elle, vous auriez cherché à vous soigner en France, mais ensuite, une fois guéri, vous êtes déraciné, vous êtes seul, vous êtes loin de votre famille, de vos amis, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous seriez resté en France ou est-ce que vous seriez reparti en Arménie, près de vos repères culturels et des gens que vous aimez? Le premier réflexe, sans doute, c'est de revenir à ce qui nous sécurise, à ce qui nous est connu, à l'endroit où on a nos repères. C'est une réponse qui est « on ne peut plus raisonnable ». C'est une réponse raisonnable, mais ce n'est pas forcément la meilleure, parce qu'on peut revenir à la raison, mais on peut aussi revenir à la maison. La dernière fois, c'est-à-dire dans cette vidéo, on avait vu comment, alors que la famine a commencé à frapper la Judée à l'époque des juges, un homme, Élimélec, s'est exilé en Moab avec sa femme Noémie et ses deux fils. Élimélec meurt, les deux fils se marient, mais ils meurent à leur tour. Et Noémie se retrouve donc seule avec ses deux belles filles. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1, versets 6 à 18, nous lisons ceci. « Alors elle revint du pays de Moab avec ses belles filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses deux belles filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses deux belles filles, « Allez !» Que chacune de vous retourne chez sa mère, que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à sangloter. Elles lui dirent « Non, nous retournerons avec toi, vers ton peuple. » Noémie dit « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « Il y a de l'espoir pour moi », si ce soir même j'étais remariée et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore, puis Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux, retourne-toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Cette histoire, c'est une histoire de retour. Le mot « retourner » en hébreu apparaît entre 7 et 9 fois dans le texte qu'on a lu, ça dépend si on compte les doublons ou pas. En tout cas, c'est le thème de ce texte, le retour. Ces trois femmes, elles ont vécu un drame, chacune d'elles a perdu son époux, elles vont devoir se réinventer, elles vont devoir se retourner, selon l'expression consacrée. Mais se retourner vers qui? Se retourner vers quoi? Eh bien, c'est là toute la question, et elles vont pas y répondre de la même manière. Si on est un peu sérieux, on sait que quand on passe par des moments difficiles comme celui-ci, par des épreuves comme celle-là, c'est vraiment pas le moment d'ajouter des épreuves aux épreuves. Et on sent chez Noémie toute la puissance du raisonnement. Elle sait que la famine est terminée en Juda. Dans le texte, on a d'ailleurs l'impression que tous ces événements coïncident, c'est probablement pas le cas, il est fort peu probable que la famine ait duré 10 ans d'une part et qu'elle se soit arrêtée pile à la mort de ses fils. Le plus probable, c'est que maintenant que son mari et ses fils sont morts, Noémie prend en compte cette donnée qui lui était pas très utile jusqu'à présent parce que Noémie, elle vivait pas mal dans le pays de Moab. Ils y étaient pas malheureux, ils s'y sont installés, les enfants s'y sont mariés, ça allait plutôt bien. Mais là, la situation a changé parce que non seulement elle est veuve, mais elle n'a même plus ses fils pour s'occuper d'elle. Et elle n'a aucune perspective de remariage, elle est trop âgée, et elle n'est même pas du pays. Sa situation, donc, est devenue terriblement précaire. Donc, dans ces circonstances, elle lorgne vers son pays d'origine. Et là, elle voit effectivement que le pain est revenu dans la maison du pain. Il n'y a plus de famine à Bethléem. Et elle sait qu'elle va trouver là-bas, au milieu de ses frères, de sa tribu, de son clan, le soutien qui va lui faire défaut en Moab. En tout cas, elle peut l'espérer. Parce que sur le territoire d'Israël, au moins, il y a des lois pour protéger les veuves et les orphelins. Donc, elle devrait être prise en charge par la communauté. Donc évidemment, le retour s'impose pour Noémie. Le choix de Noémie, c'est un choix pratique, pragmatique et tout à fait raisonnable. Elle a raison, c'est vraiment ce qu'elle a à faire de mieux. Spirituellement, maintenant, Noémie est dans une espèce d'entre-deux, en fait. Parce que d'un côté, elle prend Dieu en compte, elle dit que le Seigneur est intervenu en faveur du peuple, au verset 6, elle invoque aussi la bénédiction de l'Éternel sur ses belles-filles, et c'est certain que Dieu a été présent dans cette famille pendant la décennie qu'ils ont passée en Moab. Non seulement parce que Dieu est fidèle, mais aussi parce que même si Élimélech, d'une certaine manière, s'est détourné du Dieu d'Israël en décidant de s'exiler chez un peuple ennemi d'Israël, visiblement, le Dieu d'Israël était encore dans les conversations, dans les traditions, dans les prières de la famille. On le voit parce qu'on voit par exemple que Ruth sait qui est le Dieu de sa belle-mère. Elle en a entendu parler de ce Dieu-là, et même un peu plus que ça, on va le voir ensuite. Mais en même temps, Noémie est amère. Elle croit encore au Dieu d'Israël, mais elle est aussi singulièrement fatiguée, fatiguée des épreuves. Elle croit plus que le Dieu d'Israël veuille son bien à elle. « La main du Seigneur s'est abattue sur moi », c'est ce qu'elle dit au verset 13. Elle rentre au pays de Juda, mais elle y va un peu en traînant des pieds. Elle y va pas poussée par l'élan d'un Dieu qui l'appelle, mais elle y va parce que, de toutes les solutions qui se présentent à elle, finalement c'est la moins pire. Noémie, elle attend plus grand-chose de la vie, et elle attend plus grand-chose non plus du Seigneur de la vie. Par contre, elle est raisonnable. Et comme elle est raisonnable, elle sait que ce qui est bon pour elle n'est pas forcément bon pour Orpa et pour Ruth. Parce que elles sont moabites. Elles n'ont pas à retourner chez elles sont chez elles. Et en plus, elles sont jeunes, elles vont pouvoir se remarier, elles n'ont aucun intérêt à s'exiler dans un pays étranger. Donc c'est évident, la meilleure option pour Orpa et pour Ruth, c'est de retourner chez leur mère. Et ça, c'est l'expression que Noémie utilise, que chacune de vous retourne chez sa mère. Verset 8. Il faut sans doute pas accorder trop d'importance à ça, mais quand même, l'expression est singulière, parce qu'on est dans une société patriarcale, et que dans cette société patriarcale, on aurait plutôt dit que chacune de vous retourne chez son père. Et certains voient dans cette expression, et dans l'amertume de Noémie, peut-être une blessure, quoi. Finalement, les hommes, on peut pas trop compter sur eux, quoi. À la fin, c'est elle, Noémie, qui va devoir se débrouiller seule, qui doit se débrouiller seule, qui se retrouve à être le pilier de la famille. Donc, le mieux, si tu veux trouver un peu d'aide et tomber sur quelqu'un de solide, c'est de retourner chez ta mère. Donc, elle les enjoint de rester en Moab et quand même de se remarier, parce qu'un mari, quand même, c'est une sécurité. Mais Ruth et Orpa sont attachés à leur belle-mère. Et ça, c'est beau de le voir aussi. C'est beau de voir qu'il y avait des liens d'attachement dans cette famille. Pour Orpa et Ruth, quitter Noémie, c'est un vrai déchirement. Seulement, Noémie, elle a de bons arguments et Orpa va se résoudre à les suivre. Noémie rentre chez elle. Et Orpa aussi rentre chez elle. Orpa, elle va retourner à son peuple, elle va retourner à ses dieux, elle va retrouver la vie qu'elle avait quittée en se mariant avec le fils de Noémie. Et elle a raison, Orpa. C'est ce qu'il faut faire, c'est raisonnable. Son geste, d'ailleurs, n'est pas condamné dans le texte, mais quand même, il marque la fin d'une histoire. Orpa, elle sort du récit, non seulement du récit du livre de Ruth, mais surtout du récit de l'histoire biblique, le récit de l'histoire de Dieu avec son peuple. Et dans ce choix raisonnable, on voit en arrière-plan, en filigrane, quelque chose d'en fait assez dramatique. Ruth, quant à elle, va faire un autre choix, un choix complètement absurde, un choix insensé, un choix idiot en fait. Et je l'ai appelé ce choix le retour à la maison. La question qui est posée par ce texte, qui nous est posée à nous finalement, c'est où est-ce que tu habites? Quelle est ta demeure? Est-ce que ta patrie, c'est le lieu de ta sécurité matérielle, comme pour Noémie? Est-ce que ta patrie, c'est le lieu de ta sécurité émotionnelle, comme pour Orpa? Ruth rentre à la maison. Et dans cette maison, elle n'aura ni sécurité matérielle, ni sécurité émotionnelle. Parce que sa maison, ça n'est ni la sécurité d'un mari, ni la terre, ni les dieux de ses ancêtres. Ruth refuse de revenir en arrière. Et c'est une décision, il faut le dire, qui est extrêmement courageuse et aussi extrêmement difficile, parce que c'est un saut dans l'inconnu. Mais on entend dans cette décision un écho à la femme de Lot, par exemple, en Genèse 19, qui, fuyant la catastrophe de Sodome et Gomorre, a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel. On entend aussi l'écho d'une parole d'évangile qui ne viendra qu'un millénaire plus tard dans la bouche de Jésus lui-même, quand il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. » Ruth la Moabite a mis la main à la charrue du Dieu d'Israël. Et là, c'est très intéressant parce que la parole du Seigneur est claire. Aucun Moabite ne sera admis dans l'assemblée du Seigneur. C'est ce qu'on lit en Deutéronome 23, versets 3 à 7. Si vous faites une lecture littéraliste, Ruth n'a rien à faire en Israël. Noémie devrait être châtiée pour oser ramener une Moabite en Israël. On pourrait objecter que de toute manière, la déliquescence spirituelle du peuple d'Israël à cette époque fait qu'il faisait n'importe quoi. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas droit en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Soit. Mais la suite de l'histoire de Ruth montre que Dieu a accueilli Ruth. Et même plus qu'accueilli, elle va être l'arrière-grand-mère du roi David, le roi selon le cœur de Dieu. Ruth, la Moabite. Elle va être l'ancêtre de Jésus. Elle va apparaître dans sa généalogie alors que les généalogies sont normalement patrilinéaires, c'est-à-dire qu'elles vont de père en fils. Eh bien, dans la généalogie de Jésus, on trouve 5 femmes. 5 femmes sont nommées, et quelles femmes ? Ça vaut la peine quand même d'aller jeter un œil. Vous avez Tamar, une femme qui va se déguiser en prostituée pour coucher avec son beau-père. Ça serait long à expliquer, mais enfin, elle a fait ça par souci de justice. Vous avez Rahab, une vraie prostituée, cette fois-ci, qui va protéger les espions d'Israël qui viennent explorer la terre de Canaan. Vous avez Ruth, la Moabite, qui est issue donc d'un peuple hostile à Dieu, mais qui s'est attachée au Dieu d'Israël. Vous avez la femme d'Uri, c'est-à-dire Bathsheba, qui a été violée par le roi David alors qu'elle était mariée et qui a été prise pour femme par lui après qu'il ait fait assassiner son mari. Alors on pourrait se dire, elle est vraiment une pure victime et c'est évidemment vrai, n'empêche que selon les lois de l'époque, elle aurait pu se faire lapider pour adultère. Et vous avez finalement Marie, la mère de Jésus, jeune femme juive et pieuse qui, par l'acceptation de cette incroyable mission que Dieu lui a confiée, a quand même eu l'énorme tâche de faire comprendre à son mari qu'elle ne l'avait pas trompé en fait, hein, qu'elle n'était pas adultère. Et heureusement, Dieu est intervenu pour convaincre son mari de ça. Bref, vous avez là que des femmes que la loi aurait écartées et que la grâce a choisies. Que des femmes qu'une lecture littéraliste des commandements du Premier Testament aurait condamnées ou mises au ban, mais que Dieu a accueillies et qu'il a intégrées pleinement au nombre des rachetées. Alors vous voyez, quand on me dit « c'est biblique » ou « c'est pas biblique », je suis attentive parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bibliques, mais qui n'ont rien de chrétienne. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'exclusion des Moabites, ce n'était pas une exclusion raciale, c'est une exclusion morale et culturelle. Les Moabites avaient refusé d'accueillir Israël, et ils avaient cherché à le faire maudire par le prophète Balaam. Ruth brise ce mur dressé en abandonnant le polythéisme de ses ancêtres pour rejoindre le Dieu vivant. « Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enseveli. » Cette formule, c'est une formule d'alliance qui est semblable à celle de Dieu lui-même quand il dit en Exode 6, verset 7, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » La maison de Ruth, c'est le Dieu d'Israël. Sa sécurité physique, psychologique, spirituelle, c'est le Dieu d'Israël. Et sa déclaration de foi est tellement forte qu'elle balaye d'un revers de main tous les arguments raisonnables de Noémie. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus, dit le verset 18. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire, tu veux venir, tu viens. Noémie, Orpa et Ruth ont toutes pris la route du retour, mais Ruth a trouvé la maison. Parce qu'elle n'a pas seulement tourné ses talons vers la sécurité matérielle ou la sécurité émotionnelle, elle a tourné son cœur vers le Dieu d'Israël. C'est ce qu'on appelle une conversion. Vous savez ce que mon amie arménienne a découvert en France ? Elle a découvert le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Et je me souviens non sans émotion d'un frère qui un jour lui a mis la loi sous le nez, ou ce qu'il pensait être la loi en tout cas. Il lui a parlé en long, en large et en travers de l'exigence biblique de la soumission de la femme à l'homme. Évidemment, il a cité Éphésiens 5 et il a déroulé tout l'argumentaire autour de la nécessité pour les femmes d'être soumises à l'autorité masculine. Ce qui non seulement est faux parce que, en fait, ce texte parle de la soumission au mari et pas à tous les hommes de toute la planète, mais qui en plus n'est que la moitié de ce que la Bible dit, l'autre moitié étant que le mari doit se sacrifier pour son épouse. Et autrement dit, que nous sommes dans une posture de soumission mutuelle. Mon ami l'a écouté patiemment et avec le sourire. Et à la fin, quand il a eu terminé, elle lui a dit « Tu sais, en Arménie, j'étais sous l'autorité de mon père, je lui devais totale obéissance. Après mon mariage, je suis passé sous l'autorité de mon mari, je lui devais aussi totale obéissance. Mais ici, j'ai rencontré le Christ et j'ai découvert la liberté qui est la mienne en lui. » Alors c'est pas demain que je me remettrai sous l'autorité d'un homme, parce que je suis sous l'autorité de Dieu. Et moi, ça me bouleverse. Vous imaginez la libération vécue par cette femme, elle qui ne vivait que par procuration, Jésus lui avait permis de vivre par elle-même, en soumission non pas à un autre être humain tout aussi pécheur qu'elle, mais à Dieu. Il lui a permis de prendre ses propres décisions éclairées par l'Esprit Saint. Il lui a permis de construire sa vie guidée par l'unique parole de Dieu. Mais tout ça à un prix. Elle n'a pas pu retourner en Arménie. Elle n'a pas pu retrouver ses repères. Elle n'a pas pu retrouver les dieux de ses ancêtres. Et même si on sait que ce qui est devant nous est mieux que ce qu'on a laissé derrière, ça reste toujours un déracinement. La foi fait de nous des étrangers et des passagers sur la terre. Et ce sentiment-là, il perdure après la conversion. Mon amie est depuis devenue aide-soignante, puis infirmière, puis elle a obtenu la nationalité française, elle a passé son permis, et il y a 2 ans, elle est partie en Ukraine en pleine guerre pour acheminer du matériel médical. Elle ne s'est jamais remise sous le joug de son père, qui pourtant a essayé de lui remettre la main dessus. Mais elle a tenu ferme, elle a posé les limites qu'elle devait poser, et sa liberté en Christ est devenue son bien le plus précieux. Il n'y a pas eu chez elle de retour en arrière. Ça lui a singulièrement compliqué la vie. Les relations avec ses parents, ses frères et sœurs qui ont décidé de la rejoindre en France ont été difficiles. Mais il y a eu, pour elle comme pour Ruth, un retour à la maison. La maison du Dieu d'Israël. La maison du Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous libère de nos peurs et qui nous invite à entrer dans une vie de foi où notre sécurité ne dépend plus des circonstances ou des personnes qui nous entourent. Alors toi qui souffres, toi qui plies sous le poids du fardeau, toi qui as des décisions à prendre quant à ton avenir, vers quoi reviens-tu? Est-ce que tu reviens vers des sécurités passées, vers un bonheur qui a été mais qui n'est plus? Ou est-ce que tu reviens vers Dieu qui t'invite à aller de l'avant avec lui? Est-ce que c'est la peur du manque qui te guide? Ou est-ce que c'est la foi, cette foi qui est mêlée d'incertitude quant à l'avenir mais qui est aussi convaincue d'avoir le Seigneur pour guide à travers le brouillard qui fait face? Ruth ne savait absolument pas où elle allait, mais elle savait avec qui elle voulait marcher. Et peut-être que tu es toi aussi sur la route du retour alors que l'épreuve traversée est encore fraîche, qu'elle se fait présente et pesante. Peut-être que tu ne sais pas exactement où aller et que tu tentes de raisonner avec ta tête, ton intelligence. Et évidemment, la raison, elle n'est pas à écarter du discernement, mais les folies de Dieu non plus ne sont pas à écarter. Il y a ce que la raison t'appelle à faire et il y a ce que Dieu t'appelle à faire. Et parfois, ça coïncide et parfois, l'appel de Dieu est surprenant. La voie qu'il propose semble folle. Néanmoins, c'est important d'écouter ce qu'il dit, ce qu'il fait naître au fond du cœur, la conviction qu'il fait poindre, parce que la foi est une folie pour les hommes, mais elle est aussi le moyen du salut. Peut-être que Dieu t'appelle à faire le pas de Ruth, à tourner ton cœur vers lui, à marcher avec lui vers une terre qui ne t'est pas familière. Et si cet appel vibre en toi, eh bien tu peux aller à l'église, regarder les gens qui t'entourent, t'imprégner de leur présence et dire comme Ruth, « Votre peuple est mon peuple, votre Dieu et mon Dieu. » Et si tu fais cette démarche dans ton cœur, eh bien, il n'y a plus qu'une chose à dire. Bienvenue à la maison.